Moi, je prends le du travail au café oriental. J'ai réduit totalement ce qui
soit dit. C'est lui de l'automatie, au fait, d'engage, en combinant les deux, de mes précisions, trouver une solution par rapport à ça.
Heureux de vous retrouver à nouveau pour cette 57 minutes interactives sur Radio Capi, la fréquence de la paix. En RDC, les tribunaux pour enfants ont été installés depuis 2011-2012 à travers le pays pour résoudre le problème des enfants en conflit avec la loi. Certains observateurs estiment que 4 ans après, les effets que devraient produire ces juridictions ne sont toujours pas palpables. C'est pourquoi ils proposent le renforcement du comité de médiation mis en place aussi depuis 2012 pour épargner l'enfant des inconvénients d'une procédure judiciaire et assurer la réparation du dommage causé à la victime. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Et vous avez également la possibilité d'échanger sur notre page Facebook et aussi déposer vos commentaires. Julie Pesabongunda et Tosandari à la réalisation. Alain Goya à la mise en onde de ce programme coordonné et présenté par J.R. Lungembo Luabung Angie sous la supervision de Martin Sebou Jangwe. Bienvenue à tous.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Merci à vous tous qui nous avez envoyé vos messages sur notre page Facebook et nous les rappelons que le débat se tient en ce moment sur cette page Facebook de Parole aux auditeurs. Mais notez que pour assurer pleinement la protection judiciaire de l'enfant, il est stipulé à l'article 84 de la loi portant protection de l'enfant qu'il est créé dans chaque territoire et dans chaque ville une juridiction spécialisée dénommée tribunal pour enfants conformément à l'article 149 alinéa 5 de la Constitution. Et au terme de la loi sur la protection de l'enfant, sur l'article 132, il est dit que la médiation est un mécanisme qui en fait est mis en place pour trouver un compromis entre l'enfant en conflit avec la loi ou son représentant légal ou ses ayants droit sous réserve de l'opinion de l'enfant intéressé dûment entendu. Donc pratiquement cette médiation qui n'existe plus, qui a été d'ailleurs mise en place depuis 2012, aujourd'hui manque faute de financement, ce mécanisme n'est plus opérationnel, ce qui crée déjà des difficultés ou encore un dysfonctionnement au niveau de ces tribunaux pour enfants constatés par certains observateurs. Alors Sylvain, vous avez raison, vous êtes à Bounia, bonjour et bienvenue.
Bonjour monsieur le journaliste, je salue tous les enfants qui m'attendent à ce moment puisque c'est bien pour moi.
Quel est votre avis par rapport à ce que nous venons de dire à sommaire, parce qu'il y a d'aucuns qui proposent qu'on puisse renforcer le comité de médiation qui était d'ailleurs mis en place à la même période avec la protection, la loi portant protection de l'enfant pour épargner l'enfant des inconvénients d'une procédure judiciaire et assurer la réparation du dommage causé à la victime.
Bien. En fait, il faut dire d'abord que c'est mon point de vue personnel, ça n'engage que moi. Et que la gestion des conflits qui s'engagent entre l'État et l'enfant congolais n'est pas faite d'une manière responsable. Je dirais même que lorsque nous regardons cette loi-là et nous la comparons par rapport au vrai problème sociologique du Congo, on se dit qu'en réalité c'est un calquage. Donc nous avons calqué quelque chose pour chercher à améliorer, n'est-ce pas, les différentes conditions liées aux questions juridiques de l'enfant devant la loi, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas préparés à gérer correctement les choses. Ça, c'est ma première observation. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on se rende compte du fait que le Congo reste un pays post-conflit. Donc, nous venons d'une grande guerre. Et d'ailleurs, pour l'information des Congolais, c'est que le Congo traverse toujours des guerres, puisque lorsque nous regardons l'Est, je l'ai toujours dit, c'est en fait insécurisé. Ceux qui connaissent le plus grand problème, c'est ceux qui vivent les enfants. On peut toujours se poser des questions, mais pas qu'il y ait cette méditation-là. Troisième chose, ce qu'il faut montrer, c'est en fait ce que j'appelle ici la cellule familiale. Puisque lorsque vous regardez même les causes de la famille, congolais, bien sûr, vous vous rendez compte que, du début jusqu'à la fin, l'esprit est la protection de l'enfant qui est socle de la famille. Or, qu'est-ce que nous observons, monsieur le journaliste? Il faut qu'on se dise qu'à ce niveau-là, il y a un grand problème. Le problème de l'encadrement de l'enfant. Puisque moi, je dis, mais bien sûr, oui, mais où est-ce qu'on peut commencer par le vrai encadrement de l'enfant? C'est dans la famille. La famille, ou disons les familles congolaises, sont aujourd'hui dans l'incapacité, n'est-ce pas, de gouverner l'enfant et son avenir. Et à ce niveau-là, ce que je vais vous dire, c'est qu'une simple médiation, telle que prévue par la loi sur la protection de l'enfant, ne suffit pas. Quatrième observation, lorsque vous regardez les enfants, de par leur responsabilité sociétale et sociale, mais attention, il me paraît qu'il y a un divorce total entre les
acteurs. Oui, Sylvain, pour faire comprendre un peu, Sylvain, pour faire comprendre un peu ce qui nous suit en ce moment, quand vous parlez de l'incapacité de nos familles de pouvoir réellement jouer le rôle d'éducateur des enfants, vous faites allusion à quoi concrètement? Parce que toutes les familles sont-elles incapables à ce jour?
Mais qui est gêné, hein? Je pense que nous allons rester dans l'espace du temps, géographique de la RDC. Pourquoi? Regardez une maman qui quitte sa fonction, sa maison. Elle doit aller chercher de l'eau, ensuite elle va au marché. Elle doit chercher des boîtes de chauffage pour aller vendre. Mais papa, qui lui aussi, dans les business. Et donc l'enfant, quelque part, n'est pas encadré. Tout le monde rentre à la maison fatigué. C'est une réalité que nous connaissons. À moins que les autres soient intervenus dans la solution, mais comprenez-tu. Ça, c'est une deuxième chose. Quand on parle des phénomènes en face de la rue, monsieur le journaliste. Troisième chose, lorsqu'on parle des enfants en difficulté avec la loi, l'origine c'est quoi? Donc il y a un problème sérieux de l'encadrement de la force par nos familles. Et je toujours dis que, aussi longtemps qu'en République démocratique du Congo, nous n'avons pas pris les familles en considération, ça veut dire quoi? En allouant un salaire responsable aux parents, ça je le dis, nous avons des parents qui sont 55 000 francs de mois. Je suis le journaliste, dites-moi. Lorsque nous regardons les parrains salariés congolais, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça permet au papa d'assurer l'éducation de la famille? Je dis non. Et donc c'est là où je dis que nos familles sont pratiquement incapables. Et aujourd'hui, monsieur le journaliste, il y a ce qu'on appelle cette histoire de vagabondage sexuel de nos enfants filles. Et nous les connaissons. Ceux qui veulent pêcher contre notre sociologie en tant qu'Africain. Et tout ça.
Oui, Sylvain, il y a un aspect que vous avez élevé lorsque vous parlez de Congo qui reste un pays post-conflit, je crois que c'est ce que vous avez dit, et dans la plupart des cas, ce sont des enfants qui ont été victimes, et aujourd'hui, avec des statistiques données, toutes proportions gardées, au niveau de l'Est du pays, dans l'Est du pays, il y a eu beaucoup de cas de violences sexuelles qui ont été enregistrées, et sûrement, il y a beaucoup de cas d'enfants qui sont dans cette situation, en fait, qui sont en conflit avec la loi et qui comparaissent avec leurs bourreaux pour que finalement, ils rentrent dans leurs droits. Et aujourd'hui, avec la médiation qui a été mise en place, sûrement, c'était pour assurer, comme je l'ai dit, la réparation du dommage causé à la victime. Mais aujourd'hui, l'inefficacité ou la non-opérationnalité de cette médiation, il y a beaucoup de cas, par exemple, de violences sexuelles qui sont restées impunies.
Monsieur le journaliste, vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison, c'est tout ce que j'ai annoncé au début d'amour pour ce qu'il a fait. Ce sont des projets que nous avons calculés. Pourquoi? Ces comités de médiation doivent être financés. Les financés par qui, monsieur le journaliste? Est-ce que le gouvernement congolais a mis un budget, un paquet, pour que ces comités de médiation fonctionnent sur l'ensemble des dossiers? Je dis non, je suis en Syrie, je connais, il y a des plus grands affaires qui sont partis par là, mais les acteurs, c'est eux. Pourquoi est-ce que nous attendons toujours le financement et les expériences? Or, un projet qui vous devrait réussir, après qu'on fait un effet au comité de solution, au comité de délégation, c'est d'abord le droit de rassurer les taux fonctionnement pérennes, des taux financement, pour attendre, du fait qu'on prend en charge les affaires, pour que nous puissions indiquer ce fléau-là,
n'est-ce pas? Tout à fait.
Du fait que les affaires.
Voilà, pour votre information, d'ailleurs, la présidente de tribunal pour enfants Kinshasa Gombe qui a son siège dans la commune de Kinshasa, ici dans la ville province de Kinshasa, l'a déclaré dans un média de la place que effectivement la solution pour trouver aujourd'hui ou donner l'efficacité à ce tribunal, à cette juridiction, c'est le renforcement d'ailleurs de ces comités et qui passe par le financement, comme vous venez de le dire. Mais notez que ces comités de médiation mis en place la même période où on avait promulgué la loi portant protection de l'enfant, a été d'abord préalablement financée par une ONG internationale. Aujourd'hui, cette ONG a cessé avec les financements. Voilà pourquoi il y a des difficultés. Mais vous avez révélé une chose, qu'il va falloir que l'État congolais puisse mettre des moyens pour que ces comités puissent fonctionner en bonne et due forme. Cela pourrait avoir le résultat. Je crois que c'est cela, Sylvain.
Exactement. Et je pense que c'est le cas de ceci. C'est ce que il faudrait que la communauté, puisque c'est une situation dans nos communautés, il faut qu'il y ait participation locale, afin que ces comités de médiation puissent réussir. Puisque si nous laissons cet aspect extérieur dominé sur un projet qui est d'ordre national, et donc ça ne va pas réussir et nous allons connaître tous ces problèmes.
Voilà ce que je veux dire. Merci beaucoup, Sylvain, d'avoir appelé des Bougnans. On va prendre Franck qui est à Kinshasa. Bonjour, Franck, et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aussi à tous les amis avec qui nous allons nous échanger.
Alors, vous venez de suivre Sylvain qui, en fait, déplore une chose. Hein. Pour lui, il estime que, il a même bien dit, ça n'engage que lui, notre loi portant protection de l'enfant, c'est du calcage de lois étrangères. Et aujourd'hui, le problème qui existe, c'est vrai, comme tout le monde, les comités de médiation qui a existé, qui commençait déjà à résoudre quelques problèmes, notamment en ce qui concerne la réparation du dommage causé à la victime. Aujourd'hui, par manque de financement, et ces comités n'est plus opérationnel. Il doit falloir que l'État puisse financer ces comités pour, en fait, élaguer ces dysfonctionnements que nous constatons au niveau des juridictions pour enfants.
Oui, merci beaucoup. Juste une petite parenthèse avant d'argumenter. J'aimerais d'abord demander à tous les amis qui interviennent à cette émission d'être de cœur avec notre ami le docteur Richard dont la dépouille mortelle est sortie hier. C'est vraiment une perte pour nous et il n'est plus là, mais je crois que son esprit, sa philosophie de vie, son patriotisme, c'est tout ce qui pourrait nous servir aux années à venir. Oui, par rapport à ce que notre ami Sylvain venait de dire, moi je ne pousse pas directement ce qu'il vient de dire parce que c'est son opinion libre, mais je crois que dans chaque État qui se dit moderne ou dans chaque État qui se veut moderne, on doit avoir des différentes sortes de juridictions et de tribunaux. C'est ainsi qu'il y a par exemple des tribunaux pour enfants, des chambres de commerce, ainsi de suite. Mais par rapport à notre pays, je crois que le problème qui doit se poser, c'est pas seulement de radicaliser la problématique, parce que je crois que vous avez demandé de parler un peu sur les rendements. Ces juridictions qui étaient installées il y a quelques années, et pour l'instant, on doit arriver à évaluer un peu les rendements de ce qu'ils sont en train de faire. Je trouve que le fait d'avoir ces juridictions en soi, c'est pas un problème. Si on veut avoir un État moderne, on doit aussi tout faire pour avoir des structures judiciaires modernes. Donc, il faut avoir ces différentes chambres, ces différents cours, ces différents tribunaux, afin que chaque qualité de dossier soit orientée par rapport au profil de magistrats et juges, ainsi de suite. Mais le problème qui se poserait, selon moi, c'est d'évoquer peut-être l'aspect des subventions. Un tribunal doit fonctionner à base des subventions. Un tribunal doit fonctionner à base du personnel qualifié, le magistrat. Et avec le nombre d'enfants que nous avons dans notre pays, je trouve que ces tribunaux devaient être un peu implantés partout. Mais si je peux observer ce qui se fait ici, ces tribunaux ne se retrouvent que dans quelques centres urbains alors qu'on a des enfants dans beaucoup de centres de la République. Alors, tout en militant pour que ces tribunaux continuent à faire du travail tel qu'il est assuré par leurs objectifs, c'est mieux aussi de voir un peu dans certains milieux où on peut avoir des centaines de milliers d'enfants, on n'a pas de telle juridiction. Ça, c'est un coup de deux. On doit arriver à subventionner. Si nous devons seulement voir comment les autres cours de tribunaux fonctionnent, avec combien de personnel et surtout aussi les qualités du, la qualité du traitement de ces personnels, ce sont ces paramètres qui doivent être pris au sérieux pour aussi avoir des résultats escomptés, quoi. Mais quand on cherche à radicaliser la problématique, mais dans des pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Autriche, il y a aussi des tribunaux pour enfants, c'est ce qu'on appelle en Allemagne, par exemple, Jugendamt. Quand un enfant est en situation conflictuelle avec la famille, avec la société, il faut que l'enfant puisse être accompagné, il faut que l'enfant puisse être suivi. Mais pour bien accompagner l'enfant, pour bien le suivre, il faut aussi une philosophie d'encadrement, il faut une vision pour continuer à encadrer ces enfants-là qui sont en situation conflictuelle. Et parfois, il y a aussi des dossiers qui dépassent les limites familiales. On peut aller voir un juge qui a des compétences acquises par rapport à la problématique qui se pose. Moi, je ne le vois pas seulement du côté de la médiocrité dont on parle souvent chez nous. C'est vrai qu'on peut l'évoquer, mais si on veut vraiment avoir un État moderne, nous devons aussi militer pour avoir des structures qui répondent à ces profils des États modernes. Et il faut avoir cette diversité des tribunaux de cour afin de savoir spécifier chaque cas judiciaire qui se pose. Si c'est un problème qui concerne les enfants, on ne doit pas l'envoyer à un juge qui doit s'occuper des dossiers des adultes, parce qu'un enfant de 10 ans qui est en situation conflictuelle avec ses parents, si on même on peut le retirer de sa famille, mais il faut savoir de l'endroit où il sera placé, comment il devrait être encadré. Je crois que c'est de ce côté-là qu'il faut focaliser nos argumentations pour le bien de notre pays. Et je crois avoir dit le sens.
Merci beaucoup, Franck. Vous ne partagez pas l'avis de votre prédécesseur, Sylvain, qui parlait de cette loi qui a été calquée à partir des lois étrangères. C'est du copier-coller, selon lui. Vous avez dit plutôt que pour que l'appareil judiciaire de chaque pays fonctionne convenablement, il faut disposer de tous ces genres de tribunaux pour enfants, pour les chambres de commerce, et ainsi de suite. Puis, vu l'étendue de notre pays, ces juridictions nouvellement installées sont juste dans certains centres urbains. Au lieu de se retrouver partout où il y a des statistiques élevées du nombre des enfants. Et l'autre problème que vous avez évoqué est de savoir subventionner et donc de manière conséquente toutes ces juridictions. Si l'on sait par exemple comment on fait fonctionner nos parquets, cours des tribunaux, et à cela s'ajoute les traitements et la prise en charge des juges et magistrats, il y a des gammes de préalables à mettre en place afin d'avoir des résultats attendus. Merci beaucoup, Franck, d'avoir appelé. Nous allons retrouver notre invité qui nous a rejoint d'ailleurs dans ce studio. 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, puis de la débrouille qui tient tout le secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi, une balade.
Voilà, nous retrouvons notre invité, Régine, Madame Régine Sessep. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journal.
Alors, vous êtes avocate près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, spécialiste en droit pour l'enfant. Vous avez suivi les auditeurs, mais d'entrée de jeu, c'est vrai que tout le monde est d'avis que la loi portant protection de l'enfant, c'est une victoire après un long combat normatif que qu'avaient mené des acteurs de protection de droits de l'enfant. Alors aujourd'hui, on a l'impression que ces juridictions qui devaient être vraiment salutaires pour cette promotion de la protection de l'enfant ne l'est pas, on dirait, parce que les résultats sur terrain avec les comités de médiation qui devaient exister et qui devaient fonctionner à plein régime, et cela n'est pas le cas non plus. Alors, la défaillance se trouve à quel niveau?
Merci de nous avoir accordé la parole. Vous voulez savoir à quel niveau se trouve la défaillance par rapport à l'existence ou à la nécessité qu'a eu le gouvernement congolais d'avoir installé les tribunaux pour enfants. peu moins d'entre les juges, je dirais que pour cette question, la responsabilité est de partager à tous les niveaux. Et en ce qui concerne l'enfant congolais, j'ai devant moi la loi mère, c'est-à-dire la Constitution, à son article 12 qui dit ceci, « Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois. » Le concept de tout n'exclut pas l'enfant congolais. Qu'il soit en conflit avec la loi ou qu'il soit victime. Qu'il soit un enfant avec handicap ou un sourdoué ou un enfant séparé, il est protégé par la loi. Mais pour qui, en ce qui concerne la protection, et là où je vais aborder la question qui m'a été posée, cette question est située dans le titre 3 qui constitue la loi protection de l'enfant, le titre 3 qui est basé sur la protection judiciaire. Et devant le tribunal pour enfants, il y a aussi le mécanisme que la loi a prévu d'épargner l'enfant de toutes les tracasseries judiciaires, entre-temps le nombre de remises, de frais, de va-et-vient, pour que la solution soit retrouvée d'une façon immédiate, vite, et d'une façon réconciliante, c'est-à-dire en dehors de la procédure judiciaire normale. En d'autres termes, c'est-à-dire une procédure extra-judiciaire. Mais quand cela ne tient, il se fait que la loi ou l'existence même de ces tribunaux pour enfants est ignorée par la population. Ignorée par l'enfant lui-même d'abord, ignorée, je dirais même par le Congolais. Quand bien même l'article de notre constitution dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais moi je vous dis que l'existence de ces tribunaux pour enfants aussi est ignorée par la loi. Alors, devant cet épineux problème des comités de médiation, je vous informe que le comité de médiation a été créé et mis en place. Et il se pose un problème. C'est là où j'ai dit que la responsabilité est partagée. Bien sûr. Mais d'abord, les structures, ça va être fonctionné où? Bien sûr, le personnel est là. Mais il y a le problème financier. Il y a le problème, comme je l'ai dit, structural. C'est tous ces aspects-là qui fait que, maintenant, au lieu que la solution soit trouvée d'une façon extrajudiciaire, il y a cumul de causes devant les tribunaux pour enfants.
Alors, que faut-il faire aujourd'hui? Parce que la présidente du tribunal pour enfants, Kinshasa Gombe, a fait une déclaration dans un des médias pour dire que pour trouver aujourd'hui une solution pour écarter cette défaillance, ces déficits où vous avez établi des responsabilités, il va falloir que l'État renforce en fait ce mécanisme est là qu'on a dénommé donc les comités de médiation. Ce qui veut dire il faut subventionner les tribunaux, il faut financer ces comités. Parce qu'à l'époque, ces comités étaient financés par une ONG internationale.
Voilà.
Est-ce que vous partagez cet avis?
Je partage cet avis. Pourquoi? Puisque ce tribunal pour enfants fonctionne dans des maisons communales. Dans des maisons communales. Je souligne bien. Dans des maisons communales.
Et ailleurs, peut-être dans le problème, tu verras dit, ils n'ont même pas des locaux.
Et, mais c'est ça, comment j'ai dit que ça fonctionne au sein des communes. Ça signifie quoi? Il n'y a pas de locaux.
Des bâtiments.
Il n'y a pas de bâtiments. Et comment est-ce que le tribunal en lui-même manque de bâtiments? Et en conseillant le comité de médiation. C'est pourquoi j'appuie l'idée de la présidente des tribunaux pour enfants de Kinshasa Gombe, que le gouvernement puisse mettre en pied le moyen qui permettra à ces comités de médiation de bien accomplir la noble mission qui lui a été
donnée.
Sinon, il y a, comme je vous ai dit, il y a cumul maintenant de dossiers, cumul de causes devant de cours de tribunaux et quand il y a que lui, c'est pour dire que les tribunaux aussi pour enfants, il y a des problèmes.
Je prends juste l'exemple simple avec l'acte réglementaire. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai, vous l'avez évoqué avec la loi qui dit que nul n'est censé ignorer la loi.
Oui.
Tout le monde sait que pour obtenir un jugement supplétif, il faut passer au niveau du tribunal pour enfants.
Oui.
Mais on se rend compte que cet acte qui devait, en principe, par rapport déjà à la loi qui existe, la protection de l'enfant, qui devait être posé par le tribunal pour enfants, mais d'autres tribunaux, par exemple, des parquets continuent à poser ce genre d'actes avec des jugements supplétifs. On peut l'obtenir dans n'importe quel tribunal.
Et je disais...
Est-ce que c'est une erreur ou des procédures?
Moi, je disais que c'est l'ignorance, comme je l'ai souligné tout à l'heure. En principe, cette loi qui a été publiée en 2009 devrait faire l'objet de vulgarisation. En associant bien sûr le média tel que vous êtes là. Vous organisez cette loi. Mais c'est tout à fait normal. Quelqu'un qui est ignorant et au lieu de saisir le tribunal pour enfants, là où il y a des tribunaux pour enfants, toute matière qui concerne l'enfant, son juge naturel, c'est le tribunal pour enfants. Sauf là où il n'y a pas de tribunaux pour enfants, c'est le juge du tribunal des faits qui peut faire l'office pour compléter la carence, l'ignorance. Mais il y a des fonctionnaires qui vont aller très loin, qui vont même saisir un parquet pour avoir un jugement supplétif. Le parquet n'a pas
la liberté.
Les infractions et leurs auteurs ne peuvent délivrer un jugement supplétif.
Parquet des maquettés, parquet des gémis, parquet de la gombée.
C'est
même le juge qui fait ce acte là. Même le juge qui fait ce acte.
Non, non, pas le juge, mais c'est tout le magistrat, la personne qui reçoit. C'est justiciable, ignorant, malgré lui, qui ne connaît pas la procédure, qui ne connaît pas les méandres, qui ne connaît pas qui saisit, ne se pointe devant quelqu'un qui connaît la loi, un magistrat, un greffier, un secrétaire qui est censé connaître la loi. C'est cette personne-là de l'orienter. Là où j'ai dit que la responsabilité est partagée.
Merci beaucoup, madame. On va revenir à vous, le temps de faire encore un autre tour, tour du côté du standard avec les auditeurs qui nous ont rejoints également. Maître Jean-Paul qui est à Mbandaka. Claude à Louvois, dans la province de Olomami, 081-890-6315. Pour votre intervention en direct, vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook où se tient en ce moment même les mêmes débats sur les tribunaux pour enfants installés depuis 2012 à travers le pays, au même moment avec le comité de médiation qui, du reste, ont du mal à fonctionner à plein régime.
À la découverte du Congo dans ses différentes facettes, c'est possible. Des histoires inédites d'expériences des Congolais, mais aussi de tous ceux qui, venant d'ailleurs, ont choisi le Congo comme seconde patrie. Un focus sur des métiers anciens et nouveaux déclinés à l'infini, puis de la débrouille qui tient tout secteur informel. Oui, c'est Zigzag. Rejoignez sans plus tarder l'équipe de Zigzag sur Radio Okapi, chaque samedi à partir de 15h, heure de Kinshasa. Et parcourons ensemble les coins et recoins du Congo profond. Zigzag, c'est Radio Okapi en balade.
Parole aux auditeurs.
Voilà, à l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Maître Jean-Paul, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Bonjour Julien, bonjour à tous les invités là à Radio Okapi.
Alors vous avez suivi vos prédécesseurs ainsi que notre invité qui venait d'ailleurs de brosser les vrais problèmes aujourd'hui, même les conséquences qui s'en sont suivies après qu'on ait constaté cette façon difficile de fonctionner le comité des médiations ainsi que les juridictions pour enfants à travers le pays. Alors est-ce que vous partagez l'avis de Sylvain qui disait tout à l'heure que tout est parti les défauts, c'est le fait qu'on a fait du copier-coller de lois étrangères et ça ne s'adapte pas à nos réalités. Et de l'autre côté également, c'est cette difficulté pour les gouvernements de pouvoir financer ces projets qui, du reste, est salutaire pour gérer et faire la promotion de la protection de l'enfant.
Ok, merci d'ailleurs pour retracer un peu la trajectoire de cette juridiction. Je vous dirais que les Nations Unies, lors de sa session spéciale consacrée aux enfants du 5 octobre 2002 qui avait adopté ce système. Et la Charte africaine des droits et bien-être de l'enfant à 1990 qui avait adopté. Et notre constitution de 2006, à son article 123, a pris le soin, n'est-ce pas, de reprendre ce mimétisme, car bien même c'est un mimétisme juridique. Et je vous dirai pourquoi, qu'est-ce qui a poussé à notre constitution de pouvoir prendre soin de cette disposition. Il est dit dans l'exposé des motifs un peu humilié. Cependant, en dépit des efforts déployés, de nombreux enfants continuent d'être maltraités, discriminés, accusés de sorcellerie, infectés par le VIH ou sont l'objet des trafics. Ils sont privés de leurs droits à la succession, aux soins de santé, à l'éducation. Je m'arrête par ça. Et nous prenons l'article 133 de la loi pour la protection de l'enfant JR, qui a institué cet organe qui est les
comités
de médiation. Mais il est dit que la médiation a pour objectif d'épargner l'enfant des inconvénients d'une procédure judiciaire révue, d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin aux troubles résultant du fait qualifié d'infraction à la loi pénale et de contribuer ainsi à la réinsertion de l'enfant à conflit avec la loi. Pour terminer, nous allons prendre l'article 106 de cette même loi portant protection de l'enfant. Il est dit ceci: lorsque les faits en cause de son bénin et que l'enfant en conflit avec la loi n'est pas récidiviste, les présidents du tribunal pour enfants de faire d'office la cause au comité de médiation dans les 48 heures. Qu'est-ce que je veux dire par là, J.R.? Vous allez voir que notre justice il y a un marasme qui caractérise notre justice. Lorsqu'on a institué cette juridiction, on devrait, n'est-ce pas, tout faire pour mettre, n'est-ce pas, en pratique ces comités de médiation. Et je vous dirais qu'ici en Bandaka, ces comités de médiation n'a pas été soutenu par l'État congolais. Il y a une ONG internationale qui soutenait ces comités. Non, mais c'est ça même la mondialisation. On peut imiter les choses pour le développement, l'épanouissement du pays. Et lorsqu'on mimétise quelque chose et que l'on se rend compte qu'on est incapable de bien faire sa pratique, quand même c'est la honte du pays.
Merci beaucoup Jean-Paul de nous avoir brossé tous les articles qui, en fait, instituent ces comités qui parlent de l'intention du gouvernement de pouvoir résoudre, en fait, faire la promotion de la protection de l'enfant en République démocratique du Congo, en évoquant bel et bien quelques articles de la loi pour la protection de l'enfant, disons au titre 3, comme vous l'avez dit, et puis l'article 132, des 132 jusqu'à 136. Merci beaucoup, Jean-Paul, d'avoir appelé de Mandaka. Claude, vous êtes à Louvoi, Olomami, dans la province de Olomami. Bonjour et bienvenue, la parole aux auditeurs. Oui, Claude, vous êtes avec nous? Oui, monsieur Claude, vous êtes en direct. Voilà, ce sont les aléas du direct. Alors, on revient à vous, Madame Régine Sessette. Quelle est la réaction que vous avez par rapport à ce que vous venez de suivre?
Oui, ma réaction est la suivante. Il a donné les articles sur lesquels sont basés la médiation. Et avant de faire le commentaire, je voudrais lire l'article 137 qui dit ceci: en cas de manquement qualifié d'infraction à la loi pénale, punissable à moins de 10 ans de servitude pénale, le président du tribunal pour enfants peut transmettre l'affaire au comité de médiation en engageant la procédure judiciaire. C'est pour dire que le comité de médiation, il y a des manquements. Les vents des enfants n'appellent pas ça l'infraction. Ce sont des manquements. Ce n'est pas tout manquement ou ce n'est pas toute cause qui doit être transmise devant le comité de médiation. Il y a des manquements que la loi portant protection a fait allusion. Entre autres, si ce manquement est punissable de moins de 10 ans de servitude pénale. Mais c'est une ignorance de la loi. Je dis très bien que j'évolue devant le tribunal pour enfants, je défends les enfants. Mais il se fait qu'il y a certains parents qui ont récupéré la place du comité de médiation. Même des matières dont on ne peut pas transiger, même des matières dont on ne peut pas renvoyer devant le tribunal pour enfants, le parent, un enfant ou un fils, et trouve des solutions. Je prendrai le cas du viol. En matière du viol, la loi dit que on ne peut pas transiger. Mais il se fait que les parents
ont l'arrangement à l'amiable.
Ah bon, bien sûr, l'arrangement à l'amiable. Et ça, c'est quoi?
C'est le travail qui devait être fait à la médiation.
Il prépare le comité de médiation. Et maintenant, le concept est le feu béni. Le feu béni par rapport à qui? Feu béni par rapport à la victime qui subit ou feu béni par rapport à l'enfant en conflit avec la loi.
Pourquoi l'auteur a dit tout à l'heure c'est du copier-coller? Voilà. C'est comme si la loi, vous l'avez calqué, vous avez pris la loi, disons, publiée à l'étranger, au lieu de l'adapter à nos réalités, à notre réalité sociologique, comme l'a dit Franck de Vienne tout à l'heure qui a intervenu. C'est déjà un problème.
Voilà, c'est un problème. Alors, maintenant, il y a des parents, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont récupéré la situation et qui trouvent que bon, le comité de médiation d'abord est ignoré, le tribunal pour enfants lui-même d'abord est ignoré. Alors, c'est quoi? C'est tout ça qui fait que les lois, oui, il y a la voilà. J'ai toujours dit, il y a l'avancée textuelle. C'est-à-dire, les lois sont là. Mais l'article 62 qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Alors, que doit faire le gouvernement? Mettez à la disposition des gens.
Vous pensez revoir cette loi et l'adapter quand même à nos réalités sociologiques, parce que vous l'avez dit, aujourd'hui, les parents ont remplacé d'ailleurs même ces comités de médiation
dans
certains points. Ouais. Donc, pourquoi ne pas simplement enlever dans la loi cette partie du comité de la médiation pour laisser quand même cette ouverture pour que les parents et même puissent participer dans
la question? Il y a des défenseurs de droits de l'homme qui me suivent pendant un instant et il y a tout le monde qui me suit.
Oui, c'est discutable.
C'est discutable.
Nous n'avons pas le monopole de la vérité.
Voilà, nous n'avons pas le monopole. Mais si on trouve que l'idée est bonne, quand je l'ai lancée, mais c'est question de faire du bruit. C'est une loi, il y a beaucoup de choses à refaire. Moi, j'ai toujours, moi, maître régime, j'ai qualifié que cette loi est injuste. Elle protège beaucoup l'enfant conflit avec la loi et la victime.
Merci beaucoup. Alors, on va tout à l'heure, il y a Jean-Paul qui évoquait l'article 134 hein, qui expliquait un peu l'avantage hein, qu'on peut obtenir dans, fait, dans ces comités de médiation.
Voilà.
En disant que la médiation est notamment conclue sur base d'une ou plusieurs des mesures, entre autres l'indemnisation de la victime, la réparation matérielle des dommages, la restitution des biens à la victime, la compensation, les excuses expresses présentes et de façon verbale ou écrite à la victime, la réconciliation, l'assistance à la victime, le travail d'intérêt général ou encore la
prestation communautaire.
Il y avait quand même une mission noble qu'on avait donnée à ces comités à l'avantage de la victime.
Bien sûr, mais qui ne fonctionne pas. Mais les victimes de maintenant, comment sont résolues leurs situations?
Difficilement. Alors, on va prendre Maître Trésor qui nous arrive également dans ce débat. Maître Trésor, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre avis, Maître Trésor?
Bien, merci. Je salue l'invité, mon confrère qui est au studio. Et nous-mêmes, les dames, on s'appelle toujours confrères.
Oui, on est
une personne. Bon, on a déjà relevé certains points essentiels. Moi, je voudrais simplement m'attarder sur la question des mesures provisoires. C'est là qu'il y a plus violation de la loi portant protection de l'enfant, mais aussi et surtout cela frise la magouille dans les chefs des ministères du tribunal pour enfants. Vous pouvez faire la ronde des tribunaux pour enfants installés à Kinshasa, vous allez trouver les enfants en conflit avec la loi détenus dans des amigos qu'on a baptisés un centre de rééducation. On dit qu'on a mis les enfants à la disposition de l'assistance sociale. Mais en réalité, il s'agit des amigos des tachons. Et même au niveau des prisons centrales de Makala, vous allez trouver des enfants confiés avec la loi incarcérés. Alors que la loi ne prévoit pas une telle possibilité, même lorsque le juge prend sa décision. Il n'est pas prévu que l'enfant sanctionné soit placé dans une prison ou dans une maison d'arrêt. Les mesures provisoires, la loi en a prévu trois. Hein, le juge peut, avant de statuer sur le fond, prendre par voie d'ordonnance l'une de ces mesures-là. Il s'agit de placer l'enfant sous l'autorité de ses pères et mères ou de ceux qui en ont la garde. Assigner à résidence l'enfant sous la surveillance de ses pères et mères ou de ceux qui en ont la garde. Et enfin, il y a le fait de soustraire l'enfant de son milieu et de le confier provisoirement à un couple de bonne moralité ou à une institution publique ou privée agréée à caractère social. Et la loi a précisé pour les couples, il s'agit de deux personnes de sexe opposé qui se sont mariées légalement. Et par rapport à l'institution publique pour placer l'enfant sous contrôle d'une institution publique, il faudrait que les autres mesures soient vidées ou que parmi ces mesures-là, on ne trouve pas opportunité. D'abord, on va envisager les autres mesures avant de placer l'enfant dans une institution publique.
Tout à fait. Maître Trésor, est-ce que vous partagez l'avis selon lequel qu'il y a des faillants aujourd'hui au niveau du fonctionnement de ces juridictions, faute de l'opérationnalité de ce comité de médiation?
L'opérationnalité du comité de médiation est un aspect important pour le fonctionnement du tribunal. Je pense que la loi a prévu certains cas et on a lu certains articles que j'ai suivis qui concernent la médiation. Ce comité est très important, il doit fonctionner normalement, mais pour qu'il fonctionne, il faut mettre les moyens qu'il faut pour son fonctionnement. Et par rapport à ce qui est dit la loi, si ce comité ne fonctionne pas, je ne vois pas comment ce
tribunal peut fonctionner.
Hein, pourra bien fonctionner.
Parce que ça, donc le fait que ça soit lié, on ne peut pas laisser le tribunal fonctionner sans le comité de médiation. C'est comme si quelqu'un est amputé d'une jambe. Voilà, donc merci beaucoup, Maître Trésor. Alors, Jean Condé, vous êtes à l'Oubassi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Alors, vous êtes aussi juriste. Quels sont les aspects? Ou est-ce que vous confirmez, comme les autres, vous appuyez les compréhensions qui parlent de cette défaillance au niveau du fonctionnement des tribunaux qui serait lié, effectivement, à l'inopérationnalité de ces comités, de ces comités de médiation?
Effectivement, monsieur le journaliste, si vous constatez très bien, en principe d'ordinaire, quelqu'un, si veut poser un acte, il doit d'abord prendre, tenir compte de tous les paramètres possibles pour que cet acte soit véritablement efficace. C'est comme si quelqu'un qui construisait une maison sur un terrain marécageux et après cette maison peut s'écrouler. On a pris cette loi ici sans tenir compte de tous les paramètres. C'est comme si on a copié tout simplement pour le plaisir de le faire. Or, si vous constatez bien, les enfants enfouis avec la loi, ce sont les enfants mineurs de moins de 18 ans. Ces enfants-là doivent être bénéficiaires d'un traitement différent de celui des adultes. C'est-à-dire que ça soit dans la procédure, que ça soit dans des mesures provisoires, que ça soit dans les décisions qu'on peut prendre, c'est toujours d'une manière exceptionnelle. C'est pour protéger l'enfant. Or, on constate qu'en pratique, on ne protège pas l'enfant, mais par contre, on soumet l'enfant à des conditions qui ne sont pas les siennes. Quand vous remarquez, par exemple, s'il faut mettre en place des mesures provisoires, quels sont les AIG, les établissements de garde pour les enfants?
Ils n'existent
pas dans notre pays. On peut recourir à des particuliers qui ont des maisons d'hébergement pour le faire. Qui doit nourrir ces enfants-là? Est-ce que doit-on prendre une loi pour qu'on puisse recourir à des particuliers ou à des ONG pour qu'ils puissent aider l'État, ne plus que pour s'occuper des enfants?
Oui, mais j'attendais. Quelle est votre réaction lorsque certaines personnes affirment que la loi elle-même, elle est déficitaire? Bon, je m'excuse un peu avec ce terme que certains nous ont envoyé dans leur message, qu'ils pensent soit que des enfants en conflit avec la loi au lieu de mettre aussi l'accent sur les victimes.
C'est comme si la loi ne parle pas assez hein, des victimes, mais plutôt que des enfants en conflit avec la loi.
Mais justement, c'est ça. C'est pourquoi j'ai dit que cette loi a été créée tout simplement pour protéger l'enfant. Mais ce n'est pas effectivement pour protéger les victimes. Quand vous regardez très bien, si on protège l'enfant, il aurait fallu qu'il y ait aussi d'autres dispositions pour protéger les victimes. Parce que certains parents de ces enfants, la plupart des enfants qui commettent des manquements graves, là, leurs parents sont toujours des minables et ainsi de suite. Ils ne sont pas en mesure de pouvoir indemniser ou être condamnés civilement responsables pour payer, pour réparer le préjudice causé par les enfants. Donc les victimes sont abandonnées à leur sujet. Il n'y a pas une mesure d'application pour les victimes. Ça, c'est par rapport aux enfants en conflit avec la loi. Je voulais aussi également intervenir sur un point que vous avez soulevé. Mm-hmm. En dehors des enfants en conflit avec la loi, il y a une autre procédure. Qui, vous avez parlé, par exemple, des jugements...
Des
jugements... qu'est-ce que je vais encore dire là ?
Des jugements supplétifs, vous voulez dire ?
Des jugements supplétifs.
Mm-hmm.
Si on a déclaré la naissance en retard, il faut qu'il y ait des jugements supplétifs. L'avocate qui est, je pense, votre invité, a parlé quelque part de l'ignorance de la loi. Permettez si je pouvais accepter que je lise l'article 99 de la loi portant protection de l'enfant.
Mm-hmm.
Je vais aller rapidement.
Allez-y.
Le tribunal pour enfants est seul compétent pour connaître des matières dans lesquelles se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi. Ça, c'est du côté où il y a l'enfant a commis des manquements. Maintenant, on continue. De ce tribunal-là, il connaît également des matières en rapport à l'identité, se rapportant à l'identité, la capacité, la filiation, l'adoption et la parenté qui est prévue par la loi. Ici, quand vous prenez la loi portant protection de l'enfant, on n'a pas donné la compétence au tribunal pour en
faire
prendre des décisions sur le jugement
subjectif.
Ici, on s'est limité, c'est bien limité. Alors, dans la pratique, on suppose que s'il s'agit d'un enfant dont les parents ont besoin d'un jugement supplétif, on peut recourir au tribunal pour enfants. Mais ce n'est pas seulement les enfants qui ont besoin de jugements
supplétifs,
même des adultes, qui à leur naissance n'avaient jamais
été déclarés.
Est-ce que les adultes là vont s'adresser au tribunal pour enfants?
Ils peuvent aller au parquet, ils peuvent aller à
la police
pour avoir la statut de nationalité.
C'est que le jugement supplétif là, c'est assez normal.
Parce que là, je crois que...
Mais la France n'est compétence au tribunal pour enfants de pouvoir examiner les...
Je crois que notre émission au capitre service pourrait revenir sur ça, la démarche pour obtenir, est-ce que quels sont les documents que détient un adulte qui n'a pas, qui n'a pas été déclaré à l'état civil, à la France il y a eu oubli, est-ce qu'il faudrait-il obtenir une attestation de nationalité simplement ou le jugement supplétif? Est-ce que le jugement supplétif ne concerne que les mineurs ou même les adultes aussi peuvent les réclamer? Parce que nous avons vu dans les ambassades ces derniers temps, des gens à qui on a réclamé même un jugement, on a exigé un jugement supplétif. Bon voilà, quelle est la démarche à faire?
Les adultes, ils ont besoin des jugements supplétifs.
Tout à fait.
Quelqu'un qui, depuis sa naissance, on n'a jamais déclaré sa naissance, il devient majeur. Mais dès qu'il y a besoin, par exemple, d'un document quelconque, on doit demander
tout
des jugements supplétifs.
Merci beaucoup.
L'acte de naissance.
Merci beaucoup, Jean Condé, d'avoir appelé de nous. Alors, on va prendre Jérès qui est avant nous. Nouvelle Jérès, vous gardez la ligne. Le temps qu'on revienne pour obtenir la réaction de notre invité, Mme Régine Cessep, qui est avocate près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe et spécialiste en droit pour enfants. Alors, il y a des cas de mesures provisoires, il y a aussi des éléments de compléments hein, que venaient de donner certains auditeurs. Alors, quel est votre avis?
Oui, bon, surtout en ce qui concerne le problème de la prise en charge de la victime. J'ai suivi l'auditeur tout à l'heure et comment j'évolue devant les tribunaux pour enfants, c'est parmi aussi de nombreux problèmes. En tant qu'avocate, nous constatons que la prise en charge aussi des victimes devant les tribunaux pour enfants pose problème. Comment? L'enfant en conflit avec la loi qui comparaît. Mais il arrive des fois que la victime ne comparaît pas et pour régulariser la procédure. Maintenant, pour régulariser la procédure, on sous-entend les frais. Et la victime qui est victimisée, comment va-t-elle régulariser la procédure? D'où il se pose aussi un problème de prise en charge en ce qui concerne la victime. Les tribunaux pour enfants ne concernent pas uniquement la défense de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant en conflit avec la loi, mais il y a aussi la position de la victime, comme l'a épinglé l'auditeur de tout à l'heure. C'est pour dire que, je redis toujours à ce que j'ai dit tout à l'heure, le gouvernement doit aussi revoir en ce qui concerne la prise en charge. C'est un tribunal spécialisé. Et les personnes qui comparaissent, c'est-à-dire l'enfant aussi, c'est un être spécial. Il faut tenir compte de tous ces aspects. Il n'y a pas que le problème de la victime. Devant ce tribunal, il y a aussi le manque de psychologues. La loi en a fait allusion. Il faut qu'il y ait des psychologues. Mais quand nous, les avocats, on comparé devant le tribunal de l'enfant pour enfants, la consigne manifeste certains comportements, certaines réactions.
Quand vous parlez
de la nécessité des psychologues aussi, comme l'assistance sociale. Maintenant, l'assistance sociale est opérationnelle, est visible, et les psychologues. Où sont les psychologues qui doivent accompagner ce tribunal pour enfants? C'est tout ça qui pose des problèmes pour le fonctionnement réel, viable des tribunaux pour enfants.
Alors, ces questions disent bien, parce que quand nous lisons l'exposé des motifs de cette loi portant protection de l'enfant, il est dit d'ailleurs que la condition de l'enfant dans le monde, en raison de sa vulnérabilité, de sa dépendance par rapport au milieu de son manque de maturité physique, intellectuelle et émotionnelle, nécessite des choses spéciales. Parce que vous avez parlé de l'espace social,
voilà.
Des choses spéciaux et une protection particulière. Alors, la société donc interpellé depuis un certain temps la communauté, que ce soit internationale ou nationale. Mm. Alors, c'est là qu'aujourd'hui, on est arrivé à avoir cette loi portant protection de l'enfant. Mais quand vous évoquez ces caractères spéciaux, mais on se rend compte que refuser ou encore ne pas mettre des moyens pour l'existence de ce comité des médias. C'est pratiquement réduire ses caractères spéciaux.
Réduire ses caractères spéciaux à d'autres termes violents et même
la
disposition de cette loi portant protection de l'enfant.
Il faut revoir cette loi.
Il faut revoir, bien sûr, il faut revoir. Il faut revoir cette loi et tenant compte de tout ce que les auditeurs ou tout ce que tout le monde soulève comme inquiétude et comme préoccupation pour que ce tribunal puisse jouer pleinement son rôle et ce comité de médiation.
On va prendre le dernier auditeur et puis on revient à vous pour la conclusion de cette émission. J'y laisse, vous êtes dans le banc de Deauville et maître Gabriel Lakinchata. J'y laisse, bonjour.
Bonjour, J'y laisse, je vous remercie beaucoup pour la parole. Nous avons suivi avec intérêt l'annonce du sujet, mais nous voulons dire ceci, que la loi portant protection de l'enfant et de l'adolescent rencontre beaucoup de difficultés sur le terrain. Alors, nous estimons que ces difficultés sont dites du fait que lors de l'élaboration de cette loi, on n'a jamais tenu compte du contexte socio-culturel, même traditionnel du pays. Alors, parmi ces difficultés, si vous permettez, les enfants aujourd'hui, au lieu de se servir de la loi pour les protéger, les enfants mal avisés, si vous permettez le terme, se servent de la loi aujourd'hui pour restreindre les pouvoirs des parents et pour et ils s'en servent aussi pour rallonger excessivement leurs devoirs et plutôt leurs droits auprès des parents. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, au lieu que la loi puisse résoudre les problèmes et les difficultés annoncées à l'exposé des motifs de cette loi, aujourd'hui la loi est source de conflits et de divisions au sein de la société congolaise. Alors cela étant, nous proposons que l'on puisse revoir cette loi au regard de l'environnement.
De l'environnement, de la réalité, du contexte socio-culturel. Merci beaucoup, Thérèse. Alors, on va prendre Maître Gabriel également. Maître Gabriel, vous êtes avec nous? Bienvenue, la parole aux auditeurs. Cette histoire aux citoyens. Quel est votre avis? Rapidement, vous avez une minute.
Oui, quant à moi, je ne partage pas l'avis de se baser, de se focaliser sur la commission de médiation. Et il serait impérieux d'installer des tribunaux pour enfants dans tous les territoires. Et puis on dote ces juridictions de moyens conséquents pour éviter à ce que le magistrat qui siège à ces juridictions de tomber dans des fonds de commerce quand il veut libérer des enfants en conflit avec la loi. Il y a toujours des amendes transactionnelles qui demandent aux parents qui sont vraiment exorbitants. Alors, c'est mieux de bien installer dans chaque territoire des juridictions et doter de moyens conséquents pour épargner un peu ces magistrats qui sont un magistrat qui n'est pas bien traité.
Voilà, merci.
D'un enfant et un parent qui a des moyens. Vous voyez qu'il doit quand même demander des moyens et boucles qui libèrent un peu les enfants. C'est un peu ça, mon avis.
Merci beaucoup, Maître Gabriel. Donc, vous évoquez là le problème des moyens. Et également, je dirais, ce qui est parlé comme ses prédécesseurs sur la loi pour la protection de l'enfant qui, aujourd'hui, constitue, en tout cas pour lui, une source des conflits. D'accord. Voilà, donc on va réunir Madame Régine, c'est simple. Voilà, vous avez suivi les deux. Quelle est votre réaction? La loi qui est encore source des conflits, au lieu de protéger des enfants en conflit avec la loi et aussi les victimes, c'est devenu compliqué.
Oui, c'est son point de vue. Quant à moi, je n'estime pas que la loi constitue une source de conflit. Au contraire, la loi, elle est là, c'est pour résoudre certains problèmes, c'est pour trouver la solution à toutes les questions qui se sont posées par rapport à l'inquiétude autour de l'enfant. Et comme mot de la fin, par rapport à tout ce qui s'est passé, moi je pense que le problème du comité de médiation d'abord, l'idée elle est bonne. Le comité a été créé. Mais il s'est fait qu'il a commencé même à fonctionner. Mmh. Je peux me livrer à une indiscrétion. J'avais même participé à l'une des activités organisées par l'ONU dont vous avez fait de
l'Union. Qui finançait d'ailleurs.
Oui, qui finançait. Et c'était très bien. Les agents étaient là. Mais à un moment donné, le feu s'est éteint. Pourquoi? Puisqu'il faut la braise, il faut le bois pour allumer ces braseros. Et par là, je sous-entends quoi? Le moyen financier. En dehors de ces moyens financiers, il y a aussi.
Non, mais la question est pourtant, continuerons-nous à regarder toujours les ONG qui viennent en appui. Mais je pense que nous devons
en parler. Ils sont venus en appui, mais en appui, ça signifie quoi? Que nous-mêmes nous commencions.
Non, c'est comme s'ils ne viennent pas en appui, c'est nous abandonnons tout et nous les relevons toute la charge.
C'est là le problème. En premier lieu, c'est nous. Et ils viennent nous soutenir. Nous, on ne peut pas faire le contraire. Posons les actes et les autres viendront nous soutenir. Mais le problème, c'est ça. C'est ça que nous sommes en train de parler. Pourquoi nous-mêmes, nous ne voulons pas nous prendre en charge? Pourquoi nous-mêmes, nous ne voulons pas faire fonctionner ce comité d'enfants? Est-ce que c'est le manque d'informations? C'est le manque d'intérêt? C'est le manque de moyens financiers? Ou c'est le manque de la conscience?
Le Parlement est en session budgétaire. Je crois que le mot est lancé. Le souci des uns et des autres, c'est voir ces comités opérer en plein régime. Ça pourrait aider tant soit peu au fait l'objectif, hein, à atteindre l'objectif assigné à ces comités pour finalement faire la promotion de l'enfant. Merci à Madame Régine Sotep, vous êtes avocate près la cour d'appel de Kinshasa Gombe, spécialiste en droit pour l'enfant. Merci surtout d'avoir fait les déplacements pour échanger avec les auditeurs. Nous n'oublions pas tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. Merci à vous tous et merci à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. À très bientôt pour un autre numéro.